semaine dernière, Cyberflash fête les 25 ans des jeux vidéo tous les jours. C'est comme ça. Aujourd'hui, on en est à 92-94. Là, ça va mieux. Vous commencez à vous souvenir. C'est le sommet des consoles 16 bits, Mega Drive et Super Nintendo. Mais déjà, le PC montre le bout de son nez. Wolfenstein 3D, un jeu controversé. Le premier jeu qu'on trouvait sur les réseaux. On ne parlait pas encore beaucoup d'Internet en France. Un jeu où on luttait contre les nazis, mais en passant pas mal de temps à voir des croix gammées. Pas très sain, mais techniquement révolutionnaire. Et puis, il y avait une bonne musique. Mais les choses sérieuses se passaient sur console.
Quand on se penche sur le passé des jeux vidéo, on oublie souvent de parler des 16 bits parce qu'elles sont trop récentes. Mais les consoles 16 bits ont aussi une histoire qui commence dans les années 90 avec la Mega Drive que Sega lance au Japon en 1989. À cette époque, les capacités de la Mega Drive permettent des graphismes plus élaborés que sur 8 bits grâce à l'utilisation d'un microprocesseur puissant, le 68000 de Motorola, qu'on trouve aussi sur les Amiga et les Macintosh. Techniquement, avec sa résolution de 320 par 244 en 64 couleurs, la Mega Drive, c'est comme une machine d'arcade à la maison. Mais malgré ses capacités, le succès au Japon est freiné par Nintendo qui tient alors 60% du marché nippon avec sa NES, une 8 bits. Par contre, lorsque la Mega Drive sort en Europe, et plus précisément en France en septembre 90, le succès est au rendez-vous grâce à une campagne de pub orientée jeunes adultes, la génération MTV quoi. En 93, la Mega Drive est équipée d'un lecteur de CD-ROM et la plateforme Mega CD semble promise à un grand avenir. Mais c'est le flop, un gros flop, car ce gadget n'apporte en fait aucune amélioration technique. Pour tenter de sauver le coup, Sega sort le 32X, un adaptateur permettant à la Mega Drive d'accepter des jeux 32 bits. L'idée est bonne, mais elle arrive trop tard. Tout le monde attend l'arrivée de la Saturn. Quoi qu'il en soit, le plus gros problème de la Mega Drive, ça a toujours été la Super Nintendo. Lancée en novembre 90 au Japon, sous le nom de Super Famicom, soit un an après le lancement de la Mega Drive, la 16 bits de Nintendo va rattraper son retard grâce à des qualités techniques supérieures à celles de sa concurrente. En France, la Super Nintendo sort en mars 92 et 8 mois après sa sortie, on en compte déjà 530 000 unités, presque autant que de Mega Drive sorti 2 ans plus tôt. Curieusement, la Super Nintendo n'est pas vraiment une 16 bits, car son processeur, le 65C816, spécialement conçu par Nintendo, est un 8-16 bits. Mais comme il est secondé par une armée de coprocesseurs graphiques, la machine attire très vite les joueurs du monde entier grâce à une palette de couleurs sans comparaison permettant d'afficher de 64 à 256 couleurs. La console bat la Mega Drive sur tous les plans, aussi bien pour les couleurs que pour le son grâce à un processeur encore Sony créé par le futur papa de la PlayStation, Ken Kutaragi. Pour enfoncer encore plus la Mega Drive, la Super Nintendo propose aux programmeurs d'utiliser des effets implantés d'avance dans la machine comme le fameux mode 7 qui permet d'afficher de la 3D très fluide. D'autres innovations suivront comme les cartouches avec coprocesseur Super FX permettant l'utilisation de polygones, ici avec Stunt Race FX. Et encore plus fort, voici l'arme secrète de Nintendo, Mario, dont le 4e épisode sur Super Nintendo s'est vendu à plus de 7,5 millions d'exemplaires depuis 1990. En 1995, c'est l'apogée de la Super Nintendo avec 176 éditeurs qui mettent sur le marché 367 jeux. Aujourd'hui, la 16 bits de Nintendo se place au deuxième rang des consoles les plus vendues dans le monde, derrière la NES, avec 45,5 millions d'unités pour 360 millions de cartouches. C'est la grande gagnante d'un duel Sega Nintendo qui aura duré plus de 10 ans.
Il y avait aussi le retour des Baba Cool.
Début des années 90, le constat est clair, les jeux vidéo ont donné naissance à une nouvelle industrie, puissante et riche. L'explosion des consoles, la multiplication des titres de jeux et en toile de fond des entreprises de plus en plus grosses qui dominent le marché. Mais alors, ces jeunes créateurs un peu babacool du début, il n'y en a plus? Eh bien si, en 1992, une jeune équipe de créateurs inconnus jusqu'alors va développer un hit phénoménal en dehors des sentiers battus des gros éditeurs de jeux. Les compères Romero et Carmack et leur société ID Software vont se trouver ainsi propulsés vers le succès grâce au shareware. Une minute. C'est quoi déjà le shareware? Allez, petit rappel, le shareware c'est un mode de distribution qui propose à l'utilisateur d'essayer avant d'acheter. Après ce test, vous ne payez que si vous décidez de l'utiliser. C'est un contrat moral avec l'auteur en quelque sorte et c'est beaucoup moins cher que les autres jeux dans le commerce. En 1992, les jeux en shareware, ça existait déjà, mais Romero et Carmack, qui avaient à leur actif la série des petits jeux de plateforme Commander Keen, vont littéralement révolutionner le domaine en créant Wolfenstein 3D. C'est l'événement, et cela pour plusieurs raisons. Jamais un shareware n'avait proposé un jeu aussi gros et aussi complet. En plus, le jeu lui-même se démarque totalement de tout ce qui existe à l'époque. C'est l'un des premiers jeux violents, voire sanguignolants, dans un environnement en pseudo-3D. Vous y incarnez William Joseph Blackovich, un espion des forces alliées qui doit infiltrer une forteresse nazie. Bref, c'est le boom total et le premier succès mondial d'un shareware de jeu. Sa distribution sur les BBS explose et les disquettes du jeu sont diffusées dans des telles proportions que peu de joueurs échappent à Wolf. L'exemple de l'équipe ID Software montre à quel point le mode de distribution shareware peut ouvrir la voie à l'imagination et à la création. Et ce n'est qu'un début. La jeune équipe poursuit sa lancée et crée l'année suivante Doom, encore plus célèbre. C'est l'arrivée d'un nouveau genre de jeu, le Doom-like. Puis Heretic, Exen et enfin plus récemment le fameux Quake que tout le monde connaît. Tous ces jeux étaient donc à l'origine accessibles en shareware, en version plus ou moins bridée. Une chose est sûre, Wolfenstein 3D fut vraiment révolutionnaire et il a d'ailleurs considérablement relevé le niveau des standards du jeu en shareware. En plus, il a généré une sorte de logique de service après-vente en offrant aux joueurs des mises à jour régulières et accessibles ultra rapidement en réseau. C'est ce qu'on appelle des patchs. Enfin, si les créateurs du jeu se sont creusés les méninges à développer de nouvelles versions, les joueurs s'y sont mis aussi. Wolfenstein fut en effet l'un des jeux les plus modifiés par ses utilisateurs. Ici, par exemple, une version tendance égypto-psychédélique. Il paraîtrait même qu'il existe un Wolfenstein version X.
Grosse bise numérique, on est bientôt à la fin de la rétrospective des 25 ans de jeux vidéo. Bye!